l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité aujourd'hui est Francine Méran, psychiatre, experte auprès du Conseil de l'Europe, peintre céramiste, peintre de la mémoire de la Shoah et des génocides, plus généralement conférencière sur le rôle de l'art dans la transmission de la Shoah. Francine Méran, bonjour.
Bonjour.
Alors on va s'activer aujourd'hui à faire un portrait de vos actions, des motivations qui vous portent. Et pour commencer, on va commencer par parcourir justement la façon dont vous êtes arrivée à devenir passeuse de mémoire, on peut dire ça, Francine Méran. Donc vous êtes psychiatre, c'est quelque chose qui vous a toujours animé, cette envie de transmettre la mémoire de la Shoah et des génocides en général, c'est important.
Alors, c'est pas quelque chose qui m'a toujours animé. Ce qui a toujours été partie de ma vie, c'est la peinture. Donc j'ai peint depuis toute petite et j'ai arrêté lorsque je me suis mariée ou peu avant, j'ai arrêté, j'ai eu des enfants, 3 enfants. J'ai repris quand les enfants étaient plus grands, mais toujours dans aucun objectif, juste l'objectif de peindre. Et puis arrive un jour où quand on travaille beaucoup la peinture, on se dit qu'est-ce que je vais peindre. Ce jour-là, j'ai décidé de choisir un sujet qui avait à voir avec ma profession, puisque j'étais psychiatre et que je suis toujours psychiatre. Et j'ai choisi de peindre la souffrance collective. Dans ma profession, je m'occupe de la souffrance individuelle. Et je me suis dit, bon, on va peindre la souffrance collective. La souffrance collective, c'est-à-dire des groupes en souffrance. Ce n'était pas l'idée de la transmission, c'était juste la thématique de ma peinture. Oui. Donc j'ai démarré par une peinture sur des chômeurs, un groupe de chômeurs à partir d'une photo. Et puis je suis arrivée, sans m'en rendre compte vraiment, sur une photo de déporté. J'ai peint une première photo de déporté à la sortie des camps. J'ai réécouté des témoignages. Ça m'a pris à ce moment-là. J'ai écouté des témoignages et j'ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième. J'en ai fait 5 à peu près. 5 que j'ai accrochées dans mon entrée. Il n'y avait pas d'idée de transmission. C'était toujours la question du groupe. J'avais pensé que j'allais passer d'une souffrance à l'autre. En fait, je ne suis plus arrivée à passer à une autre souffrance. Et du coup, j'ai accroché tout ça dans ma cage d'escalier. Et mes amis venaient et ne comprenaient pas pourquoi il y avait tout ça chez moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si ça dérange autant, peut-être que ça mérite d'être exposé. Alors que exposer ne m'intéressait pas du tout, parce que le côté décoré avec la peinture, ça ne m'intéresse pas. Vendre, ça ne m'intéresse pas. J'ai un métier, je n'ai pas envie particulièrement de vendre. Et du coup, j'ai trouvé le premier lieu d'exposition et c'est ça ce qui a entraîné le reste. En fait, je me suis laissée embarquer un petit peu là où ça me menait, ce que je continue à faire aujourd'hui.
C'était pas forcément un exutoire alors ?
Bah après, j'ai compris un peu quand même le sens ouais. de tout ça, mais au moment où je l'ai fait, c'était comme ça, c'est venu, j'ai pas mesuré en fait ce qui se passait. Donc la première exposition, c'était au conseil régional, à la maison de la région, et je l'ai appelée témoin passif, témoin coupable, point d'interrogation. Et c'était important pour moi parce que quand on est psychiatre, on entend beaucoup de gens qui ne supportent pas les nouvelles à la télévision, qui sont très déprimés quand ils voient ce qui se passe, aujourd'hui encore plus que jamais. Et du coup, ma question, j'étais très irritée par le fait qu'on nous impose des images et qu'on puisse rien faire. Et à l'époque, je me disais, cette obligation à être passif devant un écran, ça me posait problème. Donc je me suis dit à l'époque, au niveau de la Shoah, et ben évidemment, on était aussi témoins, enfin, pas moi, mais les gens étaient témoins. Est-ce qu'on peut inculper quelqu'un d'avoir été témoin, d'avoir rien fait ? Comment on peut comprendre que des gens fassent avec les risques qu'ils prennent ? Donc, ma question, c'était les déportés nous disent comment vous avez laissé faire. Et donc, c'est une exposition qui était la première, avec une grande toile, une double toile qui était partait d'une image très très connue de femmes qui amènent leurs enfants qui arrivent qui sortent des wagons. C'est une photo assez connue et c'était une grande toile que j'ai faite sur 2 mètres à peu près. Et ces femmes nous regardent, donc me regardent quand je les peins. Tous les regards sont portés sur nous en nous disant pourquoi vous avez laissé faire. C'était ça la thématique de l'exposition. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose chez moi qui s'est déclenché du passage de mémoire. Donc j'ai écrit des textes accompagnant toutes les toiles et je suis restée dans un coin de la salle. Personne ne savait qui j'étais. Et j'ai regardé le public qui venait, qui ne connaissait pas, qui ne me connaissait pas. Et les gens se sont mis à parler. Quand je voyais quelqu'un aller vers une toile, ils venaient me parler, j'allais leur parler. Enfin, c'est moi qui venais. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Les gens commençaient à raconter en étant devant l'étoile. Donc je me suis dit, bon, là il y a un truc, je ne peux pas lâcher ça. Je me suis dit, il faut que ça continue, alors on va faire un chemin de mémoire avec cette expo. Du coup, j'ai cherché des lieux, donc j'ai passé mon temps sur Internet à chercher des adresses, des mails. Donc il y a eu une expo Struthof, il y a eu une exposition à Compiègne, il y a eu une exposition en Belgique, dans des, forts de la, dans des lieux de la mémoire en fait. Et puis je me suis dit, ça ne suffit pas la mémoire collective, en fait ça me manquait qu'il y ait une mémoire individuelle. Donc j'ai décidé de peindre des portraits, et c'est là que j'ai fait des portraits. Puis après, c'est comme un fil qui se déroule malgré moi, je ne choisis pas. Je me suis dit, il y a plein de mémoires dont on ne parle pas, je vais me faire le porteur de ces mémoires. Donc la mémoire des handicapés, donc j'ai pas des portraits d'handicapés. La mémoire des tziganes, donc je suis allée dans une communauté de tziganes qui était partante pour témoigner à Strasbourg, qui avait été déportée au camp d'Argelès en France, oui. Donc qui ont témoigné. J'ai peint la mémoire des homosexuels en disant que ce n'était pas du tout la même question que la mémoire de la Shoah, hein, donc il n'y a pas de génocide d'homosexuels. Mais j'ai voulu parler de toute une témoin de Jéhovah aussi que j'ai peinte. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, ça ne me suffit pas. Je vais faire venir les témoins à mes expositions pour qu'ils témoignent aux côtés du portrait ou qu'un descendant témoigne. Donc ça, voilà, l'histoire, elle continue comme ça. Donc à chaque lieu d'expo, je demandais quel témoin pouvait venir. Je faisais le portrait de lui ou de sa famille, quelqu'un, et je lui demandais de témoigner. Puis après, je me suis dit, ça ne me suffit pas. Il y a 80% de ce qu'il dit qui part dans l'atmosphère, oui. Parce qu'on ne mémorise pas. Donc je me suis dit, il faut absolument que je garde la mémoire de ce qu'ils disent. Donc j'ai commencé à proposer aux gens de les filmer. Donc avec une amie, on a filmé quelques témoignages, j'en ai fait 7 ou 8. J'avais prévu un truc très grandiose que je ne suis pas arrivée à faire. Je voulais aller d'une école à l'autre, que les élèves le fassent avec moi, et puis qu'on fasse une chaîne de mémoire avec les élèves et les témoins. Bon, je vois un peu beaucoup. La vie est cool, la vie est dense, mais quand même pas suffisamment pour tout faire. Et donc... J'ai suivi ce chemin-là, et puis finalement, j'étais très liée avec une dame Tutsi de Strasbourg qui venait aux manifestations sur la mémoire immaculée Mpinganzima, avec laquelle on est liée. Et je lui ai dit que je voulais peindre à la mémoire de sa famille. Donc, je voulais la peindre elle. En fait, elle voulait que je peigne ceux qui avaient disparu. Donc, j'ai peint 6 personnes de sa famille et elle. On a fait une petite exposition. Bon, il y a eu une première exposition où c'était mélangé à d'autres thématiques de la Shoah. Puis après, j'ai fait une exposition où il y a eu 30 portraits sur les Tutsis. Donc, j'ai fait plein d'histoires individuelles de Tutsis. Donc, j'ai fait une trentaine de portraits. Donc, ça a été pour les Tutsis que j'associe toujours et auxquels je demande de témoigner. En même temps que des témoins de la Shoah viennent, je fais témoigner des témoins du génocide des Tutsis au Rwanda. Puis après, à Paris, il y a la mairie du 9e, le maire, qui m'a demandé si j'étais partante pour inaugurer le mois de la mémoire chez eux. Et le maire était le vice, enfin, le conseiller municipal était oui. arménien. Il m'a dit, mais où est la mémoire arménienne? Et je lui ai dit, mais je veux faire la mémoire arménienne, mais ça n'a du sens que si j'expose. Donc, vous voulez, ok, je fais. Donc, j'ai fait 30 toile pour la mémoire arménienne.
C'est énorme.
Oui, en quelques mois, 3 mois, je crois. Donc, une trentaine de toiles, donc des grandes, pas seulement des portraits. Et puis, depuis, donc, j'expose les 3 mémoires en même temps, toujours, quasiment, sauf si on me dit je veux une exposition que sur la Shoah. Mais autrement, j'expose et j'essaye qu'il y ait des témoins qui viennent parler au vernissage ou à d'autres temps de l'exposition de chaque génocide. Parce que je trouve que quand on transmet la mémoire de tous les génocides, enfin tous, de ce qui est considéré officiellement comme des génocides, on est plus fort. On est plus fort contre la barbarie. Ça ne veut pas dire que je ramène toutes les mémoires à la même chose, ça ne veut pas dire que les génocides, parce que là, il y a tout le problème de la concurrence des mémoires, donc il y a plein de gens qui ne sont pas contents parce qu'on ne doit parler que de la Shoah, ou on ne doit parler que de ci ou que de ça.
Moi, je suis il y a une concurrence de...
Il y a une très grande concurrence de la mémoire, incroyable. Même entre les résistants et les déportés.
Les enfants cachés, les déportés.
Ouais, tout. À tous les niveaux, il y a une concurrence de mémoire. Les enfants cachés n'ont pas autant souffert que les déportés. Alors moi, en plus de ma profession, c'est quand même compliqué de dire que quelqu'un a souffert plus que quelqu'un d'autre. Chacun a sa souffrance. On ne fait pas une comptabilité de la souffrance comme le comptabilité de la douleur, hein, comme on fait à l'hôpital. Oui. Calculez le niveau de votre douleur, je ne suis pas d'accord. Et puis, je trouve que tout le mécanisme des génocides est le même. Le type de génocide n'est pas le même, du tout, n'est pas le même. La Shoah, c'est une extermination totale sur la terre entière, et je le répète toujours, c'est la seule extermination totale sur la terre entière. Donc on a voulu faire disparaître entièrement un peuple. Ce qui n'est pas le cas des autres génocides. Les autres génocides, c'était une extermination dans un pays. Ça veut dire que si des gens quittaient le pays, ils étaient peut-être indemnes. En tout cas, on n'allait pas les chercher. Donc c'est bien une différence. Par contre, le mécanisme, il est systématiquement le même. Et on n'en a pas été très loin avec le Covid. Et c'est ça ce qui est aussi important. On n'en a pas été très, très loin parce qu'on s'est rendu compte avec le Covid que quand il y a une situation de peur, quand on crée de la peur ou quand on a peur, il faut trouver un ennemi, un bouc émissaire contre lequel qu'on désigne et qu'on coince, qu'on bloque,
stigmatise.
Exactement, et progressivement, si le gouvernement soutient ça, ce qui a été le cas du nazi, ce qui a été le cas au Rwanda, ce qui a été ça au niveau des jeunes turcs en Turquie à l'époque, si on dit oui, le danger vient de tel groupe social ou de telle religion ou Cambodge, hein, même chose, même si c'est pas un vrai génocide au sens strict, c'est quand même un système génocidaire, ce qui s'est passé, enfin un drame génocidaire, on stigmatise, on désigne quelqu'un, on commence à lui limiter sa liberté d'action, on les limite, les Tutsis, on leur a limité des professions, on leur a limité ils avaient des pourcentages à l'école, les autres n'avaient pas le droit d'être scolarisés après telle classe, dans les administrations on a limité. Pareil pour les...
Mais c'est étape par étape.
Exactement, sur le même mode que... Et après, il y a des pogroms. Sur le même mode
que... Et
là,
le Covid, quel est le parallèle?
Alors, le Covid, moi, le parallèle que j'ai fait, c'est le travail que j'ai fait le plus récemment et que je montre aussi dans les écoles maintenant. Dans le Covid, on a très vite désigné les Chinois, puisqu'ils nous ont ramené le virus. Oui. Donc, on a désigné les Chinois. Il y a eu des agressions de Chinois à Paris. Après, on a désigné les Parisiens, par exemple, quand ils ont quitté au moment du confinement, ils sont partis en Bretagne. Je l'ai encore entendu récemment. Ils se sont fait agresser verbalement parce que les Parisiens ramenaient le virus. Ce que je veux dire, c'est qu'on désigne très, très, très vite. Ça tourne à la désignation. Après,
oui.
Ça a été les vieux. On a dit les vieux, mais ils vont mourir. De toute façon, qu'est-ce qui nous enquiquine, en fait? 10 ans plus tôt, 5 ans plus tôt. Bon, nous, les jeunes, on veut vivre. Ce que je comprends, hein. Je critique pas les jeunes là-dedans. Les jeunes, après, c'est les vieux qui ont râlé contre les jeunes.
Les mécanismes de la stigmatisation sont toujours là.
On désigne un coupable tout de suite. Les vieux ont dit pourquoi les jeunes sortent malgré le fait que c'est interdit. Ils diffusent le virus. Je veux dire, on a tous cette tendance, c'est inhérent à l'être humain. Et puis, parallèlement à ça, alors les gens n'ont pas été très conscients, mais je pense que les juifs ont été conscients quand même. Il y a eu une montée de l'antisémitisme. On a très vite fait des espèces d'amalgames entre, alors on va dire, Madame Buzyn, qui était ministre juive, ministre de la Santé, son mari,
ça, c'est
je sais plus
qui. Site complotiste, oui, quand même très...
Ça a énormément diffusé. Hein. Moi, j'en ai vu énormément, oui, sur Internet, avec des images du Moyen-Âge qui sont revenues, avec un puits, avec la tête de Madame Buzyn dessus, comme si, voilà, au Moyen-Âge, les Juifs, soi-disant, avaient amené la peste. Bon, maintenant, il y avait ce truc sous-jacent, comme ça, qu'on amenait le virus. Il y a eu des manifestations avec des affiches. Je suis Sophie Scholl, je suis Anne Frank, honte au camp de comment il disait ça, camp pas d'extermination, du docteur Macron. J'ai fait tout un travail de recherche comme ça sur tout ce qui a inondé les réseaux et les manifestations anti-vax, anti-pass, évidemment les anti-vax contre les pro-vax. Enfin bon, je veux dire, c'était quand même très chaud en haine assez rapidement. Et ça, c'est ce qui a mené à un dérapage.
Ouais,
et si l'État n'est pas solide, ouais, si l'État ne tient pas bon, ben il y a un risque qu'on utilise ça, la presse peut s'en servir, et on se dit que si l'État n'est pas solide, on a des risques de refonctionner sur
une
un dérapage
sociale,
avec une désignation d'un bouc émissaire. Je ne dis pas forcément le juif, oui, le juif était dedans, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre que le juif. Et ça, c'est quelque chose, c'est par rapport à ça en fait que je me bats aujourd'hui, quoi, que j'essaye de transmettre. Donc je veux dire, j'ai dérapé, on va dire, par rapport au propos initial qui n'était pas choisi. Et aujourd'hui, par exemple, les deux expositions qui vont avoir lieu, leur titre, c'est la première fois, c'est pas la Shoah. C'est-à-dire qu'il y aura une exposition dans un lycée à Haguenau et qui s'appelle, j'ai un petit trou, Dans mon cœur, le reflet de l'autre. Et l'exposition qui va avoir lieu à l'église Saint-Pierre-le-Jeune, elle s'appellera... Bordel, alors attendez, que je retrouve. Le monde en bascule et l'humain alors. L'humain bordel, mais c'est pas ça. L'humain alors, voilà.
Donc ce sont des expositions qui vont avoir lieu là, que nos auditeurs
peuvent aller voir. Hein.
Alors l'exposition à Strasbourg, oui, ce sera à l'église Saint-Pierre le Jeune et elle sera ouverte du 14 avril au 24 juin. Et l'autre exposition, en fait dans les deux d'ailleurs, mais l'autre exposition c'est une exposition qui sera à Agno dans le lycée Heinrich Nessel. Et c'est un travail, c'est la première fois que je fais ça, c'est un travail collectif, c'est-à-dire que les élèves ont choisi des œuvres, ils vont fabriquer toute l'exposition, ils ont fabriqué des socles adaptés à mes sculptures où ils y mettent du sens parce que j'ai voulu leur montrer que le travail artisanal donne un autre sens à l'œuvre d'art et qu'ils participent à l'œuvre d'art et ils ont fait des travaux incroyables. Donc ils sont encore en cours, donc l'exposition mêlera les travaux des élèves et ce que je fais et je ramènerai ça à l'église Saint-Pierre le Jeune après avec les travaux d'élèves, il y aura les noms des élèves, le nom des enseignants qui seront écrits pour montrer en fait qu'on peut aussi les engager dans un travail et que du coup ils participent aussi à cette réflexion alors que c'est des élèves, certains sont des élèves de CAP métalliers. Ça veut dire que des élèves rejetés du système scolaire complètement, vraiment, et qui sont étonnés eux-mêmes, parce que j'y étais encore cette semaine.
De l'intérêt que vous pouvez leur porter.
Ouais, apparemment, ils sont époustouflés de ça, mais ils sont étonnés aussi de leur capacité à créer. Parce que c'est en fait des techniques pures.
Oui.
Et on leur laisse un espace de création, et vraiment, ils ont fait des choses. Mais il y a un élève qui a fait un truc incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Ils ont fait deux choses incroyables, quoi. Donc, c'est le début, il y en aura d'autres, mais c'est vraiment intéressant. Oui, donc. Tout ça pour dire que j'interviens dans les écoles, ça c'est le dernier volet dont j'ai pas parlé. C'est-à-dire que en fait tout ça m'a orientée vers la transmission et progressivement je me suis dit qu'il fallait aller dans les écoles. Alors j'ai fait des portraits de Juste, parce que c'est important de transmettre pas qu'une mémoire douloureuse, mais une mémoire du bien, une mémoire de ce que l'homme peut être bon. Et ça, c'est ce qui est de donner une image d'identification possible pour les jeunes, des résistants, des justes qui ont sauvé des vies dans tous les génocides, parce que je fais des résistants et des justes de chaque génocide pour dire qu'il n'y a pas que le mal, quoi, hein, c'est important. Et j'ai représenté entre autres des justes pour la Shoah des différentes religions, aussi bien musulmans que catholiques, protestants, et des juifs qui ne peuvent pas être nommés justes, mais qui ont fait des actes justes malgré tout, sans pouvoir avoir le titre juste, mais je ne m'occupe pas trop du titre officiel d'être juste, je m'occupe des actes justes, en fait, des gens qui ont fait des actes justes.
La bonté humaine sans titre.
Parce que je trouve que c'est ça qui est moteur, on ne peut pas se nourrir du côté victimisation, donc l'idée n'est pas de montrer les victimes, l'idée elle est de montrer que ces victimes qui ont survécu, elles ont donné un sens à leur vie et c'est un sens de la transmission et c'est ça ce que je veux transmettre. C'est pas l'idée de la douleur, c'est l'idée de ce qu'on est capable de faire. Puis en bien et en mal, quoi.
Alors vous intervenez, on l'entend, auprès des scolaires, dans les EHPAD également. Qu'est-ce que vous leur amenez quel est, vous, votre positionnement quand vous allez voir les personnes plus âgées, nos aînés?
Alors je suis allée uniquement au centre de jour à Strasbourg, Beau et Margot Cohn, qui portent le nom de ma cousine. Beau et Margot Cohn, c'était mes cousins. L'idée, c'est déjà de leur amener l'art sur place, parce qu'ils sont en validité limitée, quoi, on va dire. Donc déjà, de les ouvrir à quelque chose. Alors, les gens auxquels je me suis adressée, ils n'avaient pas beaucoup de mémoire. Il y en avait peut-être une ou... Il y avait deux, trois personnes qui avaient de la mémoire. Ça les a sensibilisés, ça les a touchés. Et j'y suis allée sur place leur raconter des histoires, parce que je raconte toujours des histoires, comme dans les écoles. Hein. J'ai raconté le même type d'histoire que je raconte aux scolaires, des belles histoires, dans la douleur, mais des belles histoires, parce que l'idée n'est pas de les rendre tristes. Enfin, je veux dire, ils ont déjà leur vécu qui est compliqué et douloureux. Mmh. Et après, on les a amenés dans mon exposition qui était à l'époque au diocèse catholique ici. Et donc on les a amenés sur place, c'était l'occasion d'une sortie et de leur montrer. Et l'idée c'est d'amener un échange, mais après c'est pas toujours facile parce qu'ils ont... La plupart avaient vraiment perdu la mémoire et c'était compliqué pour eux de participer. Mais je pense que rien que d'avoir quelqu'un qui vient les voir, qui les sort de leur quotidien, qui montre, je montre les portraits, je raconte, je pense que ça... Ça ne leur fait pas de mal d'entendre.
Alors, les portraits, justement, alors ce sera ma dernière question. On retrouve souvent des numéros affichés. Alors, évidemment, on pense au tatouage des déportés, mais pas uniquement, parce qu'il y a également des victimes ou des rescapés d'autres génocides. Pour quelles raisons ces numéros en font des portraits des personnes que vous avez réalisées ?
Alors, moi, j'ai fait une section scientifique, j'ai fait un bac S à l'époque.
Oui.
Et, mais je n'aimais les mathématiques que quand elles étaient abstraites. J'ai beaucoup de mal avec les chiffres, j'ai beaucoup de mal avec l'argent, avec tout ce qui est de l'ordre du chiffre. Et du coup, dans la première exposition, tout d'un coup, j'ai réfléchi à cette question des chiffres. Et mon grand-père était comptable. Et je me suis dit, si je n'aime pas les chiffres, il y a peut-être une raison derrière. Et puis tout d'un coup, ça s'est associé au matricule. Ça s'est associé au fait que le matricule, c'était le nom. Donc finalement, qu'un numéro symbolisait un nom. Et en fait, perdait tout son sens, puisque finalement, on perd tout ce que notre nom nous donne, c'est toute notre identité. Et je l'explique aux scolaires, ça leur parle beaucoup. En plus, ces numéros, c'est une très bonne chose, c'est pas fait exprès. Mais au niveau des écoles, c'est extraordinaire. Parce qu'alors là, les élèves, ils sont tout de suite captés par les portraits, parce qu'il y a les numéros. Hein. Donc, c'était pas volontaire. Et donc, j'explique en fait que donner un numéro à quelqu'un, c'est lui enlever toute identité et toute humanité. Et pour moi aussi, comptabiliser le nombre de morts dans un attentat, c'est enlever toute identité. Où on met un nom, mais les chiffres, ça veut rien dire. Le nombre de morts, ça veut rien dire. Et du coup, quand on est ramené à un numéro, on est ramené à un objet, en fait. On n'est plus ramené, on est ramené à une denrée comptabilisable. Oui. Et je me suis dit que la façon que j'avais de symboliser la barbarie, c'est de mettre un numéro. Donc finalement, ça veut dire que il n'y a pas un barbare, il n'y a pas un être humain qui... Parce qu'on m'a déjà demandé pourquoi tu ne représentes pas ceux qui ont commis des crimes. Mais quelle horreur, me retrouver face à un visage comme ça et peindre ce visage, c'est intenable. Et en plus, je trouve que c'est extrêmement frustrant parce que ce n'est pas ce visage, c'est la méchanceté humaine, c'est la barbarie dont l'homme est capable que je veux peindre. Ben finalement, plutôt que de peindre un être humain, ben c'est pas... J'ai entendu... ce matin, j'ai écouté un interview de Alan Knoll et de son frère, donc les enfants de Mireille Knoll, et qui disaient des tueurs de leur mère, ce ne sont pas des êtres humains. Donc je ne veux pas qu'on mette leur nom. Pour moi, et les deux ont dit, ce ne sont pas des êtres humains. Alors bon, moi je ne suis pas très d'accord, c'est des êtres humains, malgré tout, même s'ils sont capables de barbarie. Parce que le problème, c'est que l'être humain, si on se bat pas, si on n'essaie pas de faire quelque chose contre, ben, on peut avoir un sens. Enfin, la jalousie, on le voit quand même dans les crimes. Les gens sont pas que des barbares, ils sont humains et barbares. Je veux dire, le nazi qui a tué de ses propres mains, ben, il a un petit garçon qui passe à côté, et tout d'un coup, il est sensible à ce petit garçon. On a les deux en soi. Je n'ai pas dit qu'on peut tous commettre des horreurs, mais je dis, on a un peu des deux en soi. À nous de développer le sens humain pour que ça n'arrive pas. C'est pour ça que je ne voudrais pas dire que ce n'est pas des êtres humains. Mais du coup, je symbolise, on va dire, la barbarie par les numéros.
Francine Méran, on arrive au terme de cette interview, on a découvert plein de choses, votre univers, les raisons, vos motivations. Merci infiniment d'avoir comme ça parlé librement de ce qui vous porte et puis de votre travail qu'on peut découvrir. Alors moi j'ai tout simplement l'adresse de votre site parce qu'on peut voir vos œuvres, de très belles choses, et puis il est très bien renseigné sur vos expos prochaines pour des gens qui voudraient vous rencontrer, ou peut-être aussi pour des enfants de rescapés, des enfants cachés qui voudraient encore témoigner.
Ils peuvent
témoigner.
Me contacter sans problème, parce qu'il y en a beaucoup qui me contactent et que je rencontre.
FrancineMéran.fr, tout simplement. Merci infiniment d'être venue nous voir.
Merci, et merci à vous de m'avoir invitée. Au revoir.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.